Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilinot.
On est ensemble jusqu'à midi, évidemment on passe notre matinée avec vous. Faites attention avec la chaleur, on pense bien à s'hydrater, bien sûr, on va pas faire un marathon entre midi et deux, comme on peut le voir parfois, c'est pas forcément la meilleure idée. Prenez ça au sérieux, évidemment. On est avec Julien Beneteau, qui est enfermé chez lui, je pense, dans le froid, pour survivre à la chaleur. Non,
je m'adapte.
Tu t'adaptes,
ouais. Une sorte de caméléon.
Voilà, exactement, un caméléon.
C'est vrai, c'est un caméléon. C'est un Pitkowski qui vit à près de la Manche, donc ouais, il fait jamais chaud là-bas. Estelle. Donc ça va. Et puis Jérôme Pinault, il a fait des tours de France quand il faisait 6000 degrés. Donc,
mais
tu souffres pas de la chaleur.
Jérôme, t'as loup pour aller au Hellfest parce qu'ils ont tous des tatouages. Ah.
Ouais, mais j'ai arrêté sur un bras. Ils ont des deux bras là-bas.
Ouais, ils ont tout.
Tiens, je précise un truc sur la règle de on peut parler ou pas avec la main dans la bouche. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure. C'est si on s'adresse à un adversaire, évidemment. Si tu parles à ton coéquipier en disant fais-moi la passe, tu vas pas prendre un carton rouge pour ça. Après, en même temps, tu vas pas mettre ta main devant la bouche pour dire ça, j'espère.
Bah si, ils le font.
Oui, c'est vrai. Ils font tellement attention maintenant.
Si tu joues une nation qui a la même langue que la tienne,
tout à fait.
Tu peux aussi, si tu donnes une consigne tactique, tu mets ta main devant ta bouche pour pas que les adversaires comprennent.
Mais quel stratège tu es, Sarah. T'as pensé à tout, toi.
J'aurais dû être plus stratège pendant ma carrière.
Tu devrais être plus stratège dans les jeux du sport en fin d'émission.
Sarah, dans le tennis en double, on fait ça en truc. Oui. Mais Sarah, c'était la pionnière, parce qu'en double, elle avait des tactiques que personne ne connaissait.
Oui, mais d'ailleurs, personne n'a voulu jouer en double avec moi plus deux fois d'affilée. J'ai pas compris.
Ouais, curieuse histoire.
Bah ouais.
Mais c'est une vraie histoire, ça?
Mais oui.
Ça, c'est une blessure.
Anna Kournikova m'a demandé une fois pour jouer en double, c'était juste parce qu'elle voulait qu'on échange nos robes, parce que j'avais une robe Adidas qu'elle n'avait pas à l'époque.
Ça, c'est une phrase quand même, il n'y a que Sarah qui peut le dire. Anna Kournikova qui ne veut pas vous changer de robe avec moi.
C'est la classe.
Elle a limite financièrement, Anna Kournikova.
Mais elle a voulu jouer qu'une fois avec moi, après, à partir du moment où on a changé les robes.
La robe, c'est sûr qu'elle voulait jouer.
Moi, quand j'ai voulu mettre celle de Kournikova, les directeurs marketing ont dit non, toi, t'as pas le droit de la mettre, c'est que pour Anna Kournikova.
Aïe.
C'est moche. C'est vraiment pas sympa.
Moi, je vais
dénoncer à lui tout ça.
J'aimerais bien récupérer le short de Christophe Cessieux après l'émission.
Il sera un peu petit pour toi.
Vous pouvez retrouver les grandes gueules du sport la première heure en podcast, évidemment, dans un instant à Punchline. Tiens, est-ce que Pogacar en fait trop? Il a encore fait un de ses raids solitaires en partant à 72 km de l'arrivée cette semaine. On est à 15 jours du début du Tour de France. Enfin, une émission. Participer au jeu du sport, évidemment. Quelqu'un va jouer avec Sarah, hein, donc, parce que. Voilà, en double, nous, on te laisse pas tomber. Tu vois, donc on peut gagner aujourd'hui.
J'ai déjà tout noté sur son carnet,
je te signale.
On peut gagner l'enceinte portable Mino X de Lexon. Pour remporter votre enceinte portable, appelez au 3216, touche 4, envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. D'abord sur le ring, Toulouse tentera bien d'aller chercher un quatrième Brennus consécutif samedi prochain au Stade de France.
RMC, le ring des GG.
Verté du Thomas c'est Toulousain et Teddy Thomas qui fait signe au public. Calme, sixième minute de jeu et le Stade Toulousain est de retour. Denis, action parfaite en première main avec Jacoulis et il va y aller. Antoine Dupont est de retour, mesdames et messieurs. La première mi-temps incroyable de la part du capitaine de l'équipe de France. Le duel de puissance et l'essai du Stade Toulousain. Il me semble que Pierre Roussel le donne. On ne célèbre même plus côté Toulousain. On s'est simplement tapé dans la main. Et le septième essai du Stade Toulousain, c'est terrible. L'essai pour le Racing 92 après une belle session de pick and go pour les Franciliens. Et l'essai du Stade Toulousain. Le nouvel essai, le voilà. Un ballon porté qui a avancé au pas de course jusque dans l'embut du Racing 92. Le Stade Toulousain s'impose 71-17 face au Racing 92. Toulouse va aller au Stade de France pour tenter d'aller chercher un quatrième titre de champion de France consécutif.
Non mais attendez, là le disque était rayé, non? Il n'y a pas vraiment eu 10 essais du Stade Toulousain. Si, Christophe?
Si, record absolu en demi-finale de championnat. Jamais dans l'histoire, une équipe avait pris une telle rouste. Les joueurs du Racing qui sont rentrés avec le QQ tout rouge.
Eh ben voilà.
Depuis Marseille.
En voilà une image. Succès monstrueux, 71-17, hier soir face aux Franciliens du Racing. Donc, tu le disais, il y a eu un Dupont également flamboyant, lui qui n'avait plus joué depuis plus d'un mois. Le stade et sa star qui semblaient plus vulnérables, peut-être depuis plusieurs semaines, ont remis l'église au milieu du village avant de connaître leur adversaire en finale à l'issue du duel ce soir, Montpellier Stade Français. Ce sera à vivre évidemment sur RMC à 21h05. Tiens les juges, je vais vous poser cette question. Vous me répondez par oui ou par non. Est-ce que douter de Toulouse et Dupont, comme on l'a fait parfois ces dernières semaines, était une erreur? Christophe Cessieux.
Non.
Julien Beneteau.
Je l'ai pas fait, donc c'est ni oui ni non pour moi.
Comment ça tu l'as pas fait?
Bah, j'ai jamais douté de Toulouse et de Dupont, et ça veut pas dire qu'ils ont gagné hier soir qu'ils vont être champions la semaine prochaine. Et voilà, ça, ils sont au-dessus de.
Mais en général, ceux qu'on doutait, ils sont trompés.
Ouais.
Sarah Pitkowski.
Tu peux
douter de Toulouse et Dupont était-il une erreur?
Non.
Il y a pas de négation.
Mais il m'a mis un doute, Julien.
Plutôt oui. Et pour l'instant, vous dites oui à 81% sur le compte X des grandes gueules du sport. Douter de Toulouse et Dupont.
Oui, mais après Magia, c'est facile
une
après.
Erreur. D'ailleurs, pas Sarah. Les gens disent bien ce qu'ils veulent. Enfin, ça arrive.
Même s'ils avaient perdu hier. Ah non, mais Sarah,
question. Non, mais Sarah, depuis qu'elle va au Hellfest, elle est intenable.
C'est incroyable. Mais ils sont tellement au-dessus.
On vous attend évidemment au 32-16. S'il vous plaît, les gars, commencez pas le débat avant. Notre consultant rugby, Denis Charvet, et Pierre Thévenet, qui a commenté le match sur RMC hier soir avec nous. Salut les gars.
Salut.
Salut Denis.
S'il y en avait un qui le critiquait, en plus, c'est quand même Denis.
Ah, Denis, jamais les Toulousains.
Jamais de la vie.
Bah, tiens, voilà.
Denis, avant de t'entendre, Pierre, comment les Toulousains ont parlé de leur démonstration et de celle d'Antoine Dupont?
Ah, sur la victoire, beaucoup de sang-froid, hein, évidemment. On vient, on gagne, on repart même sur le terrain. Il n'y a pas eu de grande démonstration de joie. Hugo Mola pique les journalistes, mais ne s'enflamme pas.
Je vous ai peut-être trouvé un peu dur avec nous les deux mois et demi. Ouais. Mais ne nous encensez pas trop de même, parce que c'est pas non plus peut-être la réalité. On a réalisé une performance qui est une performance assez incroyable. Est-ce qu'on est en mesure d'en réaliser une de plus? Ça fera une semaine de plus de doutes et d'incertitudes.
Doute et incertitude, pour faire écho au débat des différents observateurs, dont nous sur RMC au sujet de la saison toulousaine. Les Rouges et Noirs ont fait taire tout le monde, 71 points, 10 essais, 800 mètres parcourus, 40 défenseurs battus. Wow. Et au milieu de tout ça, un homme, Antoine Dupont, écoutez l'ovation du stade Vélodrome à sa sortie à la 50e minute. Le stade s'est levé, le match d'Antoine Dupont, c'est un essai, des passes décisives à la main, au pied. On a retrouvé le capitaine des Bleus et François Cross n'est pas surpris.
On n'a jamais douté de lui. Et
jamais.
Il avait envie de se lâcher, de se libérer aussi et de faire taire un peu toutes les critiques dont il fait les frais en ce moment. Donc, il est rarement mauvais sur les matchs qui comptent. Donc voilà, c'est un super joueur, il l'a prouvé encore ce soir.
Après 6 semaines d'absence, ses petites blessures, les critiques autour de ses déplacements, notamment au Festival de Cannes, on pouvait avoir des doutes, il les a balayés. Écoutez son entraîneur qui en rigole.
Ouais, je pense qu'il en a encore un peu dans le fût. Et comme quoi, Cannes l'a pas trop handicapé sur la demi-finale, mais j'espère que ça l'handicapera pas sur la finale.
Voilà. Avec un Dupont de ce niveau, difficile de voir bien sûr comment un quatrième titre consécutif pourrait échapper à Toulouse.
Merci Pierre, évidemment. Bon, Hugo Mola, quand même, il a toujours la bonne forme.
Il boit du petit lait. Il est face à toute la bande de journaleux en face qui n'ont pas arrêté d'émettre des doutes. Et ben là, il a fait fermer les bouches à tout le monde. Voilà.
Mais il le dit tout de suite. Il dit ne nous mettez pas sur un pied d'état pour autant. Ça veut pas dire que la semaine prochaine on va gagner. On finit le papier avec un évidemment, on voit pas comment ils peuvent perdre.
Mais Julien,
bien sûr que oui, ils peuvent faire un match.
C'est pour
Toulouse, ça qu'avec Toulouse et Dupont, tout est
exacerbé. Et son coach préfère quand on les critique parce que c'est un formidable levier
moteur,
de motivation qu'il utilise dans le vestiaire. Et formidable levier pour Antoine Dupont. Ah, je suis moins bon qu'avant. Eh ben, vous allez voir. Et on a vu. Et on s'est régalé. Et c'est Magic Dupont est revenu. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de dire quand il est un peu mauvais. Moi, je suis désolé. Il a fait des matchs qui étaient pas indignes, mais pas loin de la dignité par rapport au talent de ce mec-là.
Mais quand il fait des matchs, c'est quoi les débats qui sortent? C'est est-ce qu'on reverra un jour le grand Dupont? Ça a été non, ça au milieu. Non, si, ça a été ça au milieu de la saison à un moment donné, en février.
Quand va-t-on revoir le grand Dupont?
Non, est-ce qu'on va revoir? C'est pour ça, c'est tout de suite exacerbé. Là, on parle de quoi?
Il revenait d'une blessure grave. On pouvait légitimement se poser la question.
Il revenait d'une blessure grave pendant un mois.
Lui-même certainement se l'a posé.
Il marche sur l'eau au mois de décembre.
Énervé.
Mais oui, mais parce que on va trop dans les extrêmes. Arrête, c'est pour ça que je disais, moi, je.
Oui, après, il fait. Après, au mois de février, il joue en Écosse, il joue le plus mauvais match de sa carrière en bleu. Et, ben voilà. Et donc, tu peux aussi avoir des doutes.
Mais c'était normal. Mais c'était normal qu'il ait.
Un jour avant, il marchait sur l'eau.
Ce qui n'était pas normal, c'est qu'il marche sur l'eau tout de suite au mois de décembre.
Mais c'est normal de se poser la question quand t'as ton meilleur joueur qui, même quand il revient et qu'il a une phase, comme tu dis, de décompression et qu'il doit revenir au plus haut niveau, c'est normal que des observateurs d'un sport aussi technique se disent ben, est-ce qu'on va revoir Antoine Dupont, est-ce qu'il va pouvoir finir la saison,
mais c'est les questions qu'on posait, il n'y avait pas d'affirmation.
Il a joué que 8 matchs,
j'ai pas entendu d'affirmation. Nous on a fait des débats, des podcasts depuis un mois où il a été beaucoup question d'Antoine Dupont. On n'a pas dit que Antoine Dupont n'allait pas revenir. On trouvait qu'il mettait plus de temps que d'habitude à retrouver son niveau exceptionnel. C'est tout ce que tu dis.
On n'a plus le droit
de se poser de questions.
Question
à Denis Charvet.
Non mais toi, là, on parle et dans le papier, à la fin, on dit et Dupont, écoutez l'ovation, etc. Il y a un autre joueur à Toulouse hier qui a été monstrueux. Oui. Et qui est sorti sous une ovation, mais on n'en parle pas. Et est-ce qu'il n'était pas plus important que Dupont hier? C'est
Romain Tamac, merci.
Et Tamac aussi.
Et Denis Dussade, qu'est-ce que tu en penses? Le troisième ligne n'est pas aussi important que Dupont dans la victoire?
Oui, mais l'anglais.
Eh oui,
Mais attendez, je pense qu'il faut quand même mettre l'église au milieu du village. Parce que remettre l'église au milieu du village, Dupont, c'est un extraterrestre. D'ailleurs, il était à l'entraînement avec un t-shirt, il y a marqué E.T. derrière. Mais c'est vrai, l'histoire est vraie. Je pense qu'on a un phénomène, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de l'histoire du rugby un joueur français aussi fort qu'Antoine Dupont, aussi complet, aussi génial. Et quand il est à ce niveau-là, c'est pas qu'il nous régale, c'est qu'il est intenable, il est le meilleur joueur du monde. Mais après, pour revenir à ce que tu disais, Julien, je pense que c'est légitime à un moment donné, après deux graves blessures, de se poser la question si il va revenir au niveau qui était le sien. La preuve, c'est qu'au début, il est revenu en plein gaz, mais après, il a eu un creux. Ce qui est normal après une si grave blessure. Mais je pense que c'était légitime de se poser la question.
Eh oui.
Je pense qu'on était en droit de se poser la question parce qu'on avait tellement envie, en fait, on avait tellement envie de le revoir, ce qu'il était et le phénomène qu'il était, qu'on aurait été trop déçus qu'il ne revienne pas à ce niveau-là. Et hier, il a répondu à tout le monde, et de quelle manière. Mais je le répète, c'est un mec qui est à part, qui est hors norme. Alors, tu me parles de Willis, tu me parles des autres, mais lui, il est au-dessus de tout le monde.
Douter de Toulouse et Dupont était-il une erreur, Jérôme? Qu'est-ce que tu en penses?
Moi, j'ai répondu oui. Alors, pour Dupont, évidemment, parce que ça fait partie de ces garçons-là. On en a un dans le cyclisme qui sont des surdoués. On n'a pas le logiciel. On apprend avec ces garçons-là. Et Denis le dit. On n'a jamais vu ça dans le rugby. C'est le meilleur joueur depuis presque que l'équipe de France a jamais connu. Et Paul Sexa, c'est la même chose. Et ces garçons-là, évidemment, ils reviennent. Et en plus, ils sont très forts dans les moments les plus importants, dans les matchs les plus importants. Toulouse est la meilleure équipe de France depuis des années. Toulouse a eu le temps de préparer ses demi-finales puisque ça fait quasiment un mois et demi qu'ils savent qu'ils vont jouer ces demi-finales.
Et Dupont a pas joué depuis un mois et demi.
Et Dupont est au frais et se prépare. Et quand une équipe comme Toulouse a le temps de se préparer et que Dupont a le temps de se préparer, même si ça,
oui, mais on pouvait pas savoir comment ils allaient arriver non
plus. Même si ça fâche un peu, et je pense que là, Christophe et Denis me diront pas le contraire, ce côté un peu traditionnaliste du rugby, de voir un garçon qui est sur le festival de Cannes, qui a une histoire, non, c'est pas la tradition du rugby.
C'est pas ça qui choque. Hugo Mola, il utilise un levier là qui n'a rien à voir. C'est de dire, bon, je suis blessé, je pars avec ma fiancée au festival de Cannes, alors que tous ses copains sont en train de se préparer pour les phases finales. Bon, mais finalement, il a eu raison d'aller à Cannes, vu ce qu'il a montré.
C'est exactement les mêmes débats, c'est ce que j'allais dire. C'est la même chose qu'avec Kylian Mbappé.
Non, mais quand tu deviens un emblème, les mégastars, ils sont toujours traités de la même manière.
Quand tu deviens
mythique, tu les montes au nu, et voilà.
Mais quand tu deviens une icône et que tu traverses un moment où tu es moins performant, évidemment, tout est sujet à un commentaire. Et pas forcément que de nous. Vous aussi, auditeurs et auditrices, je suis sûr que vous avez posé des questions. Sarah.
Parce que là, la question, c'est sur Dupont et sur Toulouse. Ok, Toulouse était
les deux sont liés.
Oui, mais l'incertitude ou les doutes qu'on a pu mettre sur Dupont, on les met aussi sur Toulouse. Ok, ça faisait plus d'un mois et demi qu'ils étaient qualifiés, mais enfin, ils ont perdu contre le Racing 92 sur l'avant-dernier match de championnat.
Mais ça fait un mois et demi qu'ils n'avaient aucune conséquence.
Ils avaient des blessés aussi.
Ils n'ont pas la conséquence au classement. C'est en fait, est-ce que Toulouse était impliqué?
Mais ils ont endormi leurs supporters. Peut-être. Ils ont endormi les journalistes en disant, regardez, on est mauvais.
Peut-être, laisse-moi juste aller au bout de mon explication. Quant à effectivement le plus grand club de rugby, sur les dernières journées, qui perd contre le Racing, qui prend quand même une petite raclée à La Rochelle, Dupont qui ne joue pas, c'est normal de se poser la question en disant, est-ce que le Stade Toulousain et est-ce que Dupont vont être prêts pour les demi-finales et les finales?
Et puis Sarah, il manquait Ramos, il manquait Gelon également hier, il manquait des joueurs importants.
Ramos n'est pas là non plus. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est normal qu'on se pose des questions de savoir si on va retrouver le grand Toulouse et on va retrouver le grand Antoine Dupont. Mais Antoine Dupont, il y a aussi quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, les grandes stars du sport, en fait, ils n'ont pas un moment de répit, c'est-à-dire peu importe où tu vas, tu es pris en photo et les gens jugent. Donc on pense que quand il est à Cannes, lui se la coule douce pendant que les autres travaillent. Donc en fait, il y a un amalgame de choses. Donc qu'on ait des incertitudes, c'est normal. Après, le sondage 81%, oui, évidemment, avec ce qui s'est passé hier.
Mais Sarah, c'est la vie.
C'est
le côté aussi de ce débat. Je vais te dire, le fond de ce débat aussi, c'est est-ce que finalement, on peut remettre en question nos grands champions? Parce que c'est toujours un truc un peu tabou. Comment vous allez remettre en question Mbappé? Comment vous allez remettre en question Dupont? Comment vous allez remettre en question Sexas? Mais attendez, il y a personne qui est un dieu là dans le sport de haut niveau. On peut remettre en cause tout le monde. Denis, on t'a pas beaucoup entendu.
Mais non, mais c'est la loi du sport du très haut niveau. C'est ce qui fait qu'ils sont des grands champions. C'est que cette remise en question, c'est quand ils assument leur statut. La preuve, c'est que Dupont, il a assumé de la canne, mais derrière, il a répondu de la meilleure des façons. Comme Mbappé répond de la meilleure des façons en équipe de France en ce moment. Exactement. Je pense que là où Sarah a raison, c'est que ces gens-là, ils n'ont aucune liberté, en fait. Ils sont dans un engrenage, ce qu'on a vécu aussi, nous, en tant que sportifs de haut niveau.
Mais pas autant.
Ils n'ont aucune respiration. Et c'est vrai que si on se met 2 secondes à leur place, c'est invivable.
En plus, ils se nourrissent du doute des autres.
Complètement.
D'autres.
Mais pour répondre à la question du débat, moi, je n'ai jamais douté de Toulouse. Et j'ai une anecdote que je vais vous raconter, c'est qu'avant le match, je croise Jérôme Casalbou, qui est le patron du rugby à Toulouse, le directeur général, au-dessus de Hugo Mola. Je le croise, il était champion de France à Vélie, on s'avise, et puis je le vois à sa tête. Il bougeait pas, il était avec un flegme incroyable. Et je lui dis, ça va être dur et tout ça. On s'est préparé pour, il a dit, comme ça. Et là, j'ai dit, bon, ça va, ils vont pas perdre. J'ai dit, oui, il n'y a aucun problème. C'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils ont pas de doute, en fait. Ils savent gérer ces moments-là. Ces grands événements, ces grands matchs.
C'est la force de l'expérience.
Oui. Non, et juste pour rebondir sur ce que dit Denis, il y a deux parties dans ce débat. Un, nous, on a le droit de douter du Stade Toulousain quand ils n'ont pas enchaîné 2 victoires en championnat depuis février, parce que c'était ça l'effet du Stade Toulousain. Mais en même temps, eux, de leur côté, ne doutent jamais, parce qu'ils sont absolument sûrs de leur force. Et Thibaut Flamand nous a dit hier en zone mixte, c'est dur d'aller sur le terrain quand tu es déjà qualifié depuis 3 mois et de continuer à te battre autant. Donc eux, se préparaient uniquement pour ça. Et Julien, quand je disais que ça va être dur d'empêcher le Stade Toulousain de remporter un quatrième titre consécutif, ils n'ont pas perdu une finale depuis 2006. Les Toulousains, ils sont sur 11 finales consécutives. C'est pour ça que les statistiques sont complètement de leur côté à partir de maintenant.
On en parlera demain, évidemment, quand on aura l'affiche de la finale. Ce sera Toulouse-Montpellier ou Toulouse-Stade Français. Oui, Denis.
Et ils aiment se nourrir de ça, justement, depuis toujours. C'est-à-dire qu'ils vivent comme ça. Ils vivent face à l'adversité. Ils s'en nourrissent. Ils se régalent par rapport à ça. Et chaque année, ils nous bluffent parce que chaque année, ils trouvent les moyens de se remettre en question et de repartir de l'avant.
Toulouse contre le reste du monde.
Exactement.
Il y a beaucoup de grandes équipes qui s'alimentent comme ça. Le Real, l'Argentine aussi.
Le Racing 92 a super bien joué avant. Et donc, c'est aussi parce qu'on voyait ce que faisait le Racing qu'on se dit, est-ce qu'il va y avoir.
Oui, exactement. Hervé au 32. Nous appelle de Gironde.
Tout à l'heure dans l'Intégra Sport, on essaiera de décrypter ce qui s'est passé.
Non, mais Jean, on le fait pas.
Il le fera mieux, c'est
l'ennemi de l'intérieur. Hervé nous appelle de Gironde. Salut Hervé.
Bonjour à tous.
Bon, est-ce que douter de Toulouse et Dupont était une erreur? Peut-être une erreur.
Alors oui, c'est une erreur parce que intrinsèquement cette équipe et le talent qu'il y a est au-dessus des autres. Après, tout le monde allait se gargariser. Canal hier soir, ils étaient aux anges. Vous ce matin, vous avez l'air à fond. Je trouve qu'il faut quand même, moi j'essaie juste de prendre du recul, parce que sinon, l'autre question qui apparaît ce matin, c'est sur la véracité des phases, des phases finales en top 14. Parce qu'en fait, le concept global permet au Stade Toulousain d'avoir un temps d'avance sur tout le monde. Et donc de ce fait, aujourd'hui, quand vous regardez l'ensemble, alors je vais dire les 6, mais même les 8 premiers, vous avez les 7 autres qui terminent la saison sur les jambes. Avec des blessés, avec des, et qui prennent le dernier match. Ben, La Rochelle, ils ont pris 40 points la semaine dernière. Là, le Racing, ils ont explosé. Le week-end d'avant, c'était l'UBB et Toulon. Et je pense qu'il faut quand même se poser la question, parce que sinon, on y perdra de l'intérêt. Le Stade Toulousain, ils arrivent d'une semaine de stage, ils ont eu le temps de se préparer, ils sont tous frais. Il est évident que cette équipe-là, à ce niveau-là, est au-dessus des autres. Mais je pense quand même que pour une fin de saison qui est censée être le point d'orgue d'un championnat très serré, il faudrait pas que le Stade Toulousain y mette 50 points au Stade Français en finale, parce que à un moment donné, il va quand même falloir se poser des questions, parce que on y perd de l'intérêt, quoi. Malgré le fait, et je le dis dès le départ, je ne remets pas en question le talent de la formation, du jeu toulousain et forcément d'Antoine Dupont. Mais j'aimerais bien simplement que globalement tout le monde puisse partir sur la même ligne, avec les mêmes conditions. Là, il y a un jour de plus de récupération. Mais vous savez, je ferai juste une parenthèse si vous devez avancer sur le sujet. Là, ils sont, entre guillemets, les joueurs qui vont faire la finale, dont le Stade Toulousain, puisque ça fait plusieurs années, ne font pas la tournée d'été. Ça veut dire que tous les autres clubs, UBB, La Rochelle, ça fournissent des joueurs tout l'été. Ça veut dire pas de vacances, pas de préparation, et on commence déjà avec du retard.
Ah oui, mais bon,
tout
après, ça, tu peux dire aussi que le Stade Toulousain, pendant la compétition, fournit énormément de joueurs au 15 de France sur les grandes compétitions. Donc, ils participent également à l'effort national. Donc, effectivement, la préparation, on peut en parler, mais il y a également ce qui est fait pendant la saison.
Bah, pendant la saison régulière, je vais dire Toulouse, combien de fois ils ont Dupont et Ramos?
Pas beaucoup, justement. 0 fois. Douter de Toulouse et de Dupont était-il une erreur? Vous dites oui à 81%. Merci Denis, merci Pierre. Évidemment, on vous retrouve ce soir en commentaire de Montpellier, Stade Français à 21h05. Merci les amis. Dans un instant, on revient dans les grandes gueules du sport. Est-ce que Pogacar en fait trop? Tiens, on est à 2 semaines du Tour de France, tout de suite.
RMC, la punchline GG.
Ah, what's up?
C'était dur, vraiment dur. Enfin, le début de l'étape était encore assez facile, mais à partir de la première ascension, ça s'est vraiment compliqué. Heureusement, toute l'équipe a fait un super boulot. Après, je ne savais même plus ce qui se passait derrière moi. Je n'avais aucun contact avec la voiture de l'équipe, alors j'ai décidé de continuer à rouler. Une fois que j'ai eu une bonne avance, il s'agissait juste de trouver le bon rythme et de le maintenir jusqu'à l'arrivée. Ce n'était pas facile, c'était certainement pas prévu, mais ça a bien fonctionné.
Alors, je savais plus ce qui se passait derrière moi, dit Tadej Pogacar, qui était donc lancé. On est à 2 semaines de la grande boucle. Je sais que pour certains, cette victoire vous a impacté. Je vous pose la question, très simple, elle a un peu provoque. Je sais qu'elle va pas du tout mettre tout le monde d'accord. Est-ce que Pogacar en fait trop? Jérôme Pinault?
Non.
Christophe Cessieux?
Non.
Sarah Pitkowski?
Non.
Et Julien Beneteau?
Non.
et encore moi, parce que de l'avoir entendu, en fait.
Donc je suis le seul à penser que oui, mais d'abord, j'ai envie de vous écouter. Jérôme, pourquoi tu penses qu'il en fait pas trop?
Non, il en fait pas trop parce qu'il se prépare depuis maintenant un mois et demi, il est prêt, il arrive sur son Tour de Suisse sans aucune concurrence. Déjà qu'il en a pas dans le monde du vélo actuellement. Là, il y en a encore moins puisque Vingegaard n'est pas là, Sexas n'est pas là, Del Toro n'est pas là. Il n'y a pas de concurrence sur Tour de Suisse. Donc le gars, il roule en ce moment à la vitesse où il roule à peu près à l'entraînement. Et quand la première étape, ça a fait la bataille pendant une centaine de kilomètres, à 60 bornes de l'arrivée, j'étais devant la télé, j'ai dit, ils vont pas le revoir en fait. Parce qu'ils l'ont laissé partir, ils étaient tous à bloc dans sa roue, et Tadej Pogacar est un tel phénomène qu'il a, quand il est en compétition, il veut gagner. Peu importe la manière dont il va gagner.
Mais c'est sa manière de courir en
plus. Et c'est sa manière de courir.
Toujours.
À la base, il parle avec son coéquipier McNulty, l'américain, et il dit on y va. Et l'américain ne peut pas y aller. Donc il déroule.
Il déroule sa
partition dans son monde à lui. Il est dans ce qu'il sait faire et c'est habituel. Et il ne peut pas, il n'y a aucun moment un sportif de haut niveau, quand il se prépare à l'approche de compétition et le Tour de Suisse et le dernier passage avant le Tour, se dire je vais lever le pied parce que qu'est-ce qu'on va dire de ma performance. Il s'en tape de ça. Lui, il est prêt. Il écrase la non-concurrence. Rappelons qu'il n'y a personne qu'au départ de ce Tour de Suisse qui peut
enfin, y avait
un peu
Roglic effectivement
non, bon, non, mais c'est fini le seul qui peut jouer avec lui le seul qui peut à peu près jouer avec lui s'appelle Vingegaard et on espère Paul Sagan.
Lenny Martinez
c'est, non mais voilà et il a croqué tout le monde
Bennett parce que c'est vrai que c'est un peu on a vu beaucoup de messages et des gens un peu écœurés parce qu'on est à deux semaines du tour ça donne le sentiment qu'il va écraser la compétition effectivement
ça on verra
le Tour de Suisse c'est pas le Tour de France
voilà c'est différent. Jérôme a apporté un autre argument en disant qu'il y avait une non-concurrence. Donc en fait, pour lui, Pogacar, il sait que le Tour de Suisse, il va le gagner. Mais en fait, il le court pour se préparer. Mais non, mais c'est vrai.
Mais presque, s'il s'adapte au rythme des autres, il ne va pas progresser. Quoi.
Exactement. Et donc il se dit, mais attends, mais moi je suis là à la fois pour gagner. Comme dit Sarah, c'est sa façon de courir le nombre de fois où il a gagné des grandes classiques en partant, en faisant des raids solitaires. Et là, il se dit, bon, bah, entre guillemets, il n'y a pas de concurrence. Bah, moi, je vais faire ma course. Je vais essayer de gagner en faisant ma course. Et si je dois partir à 70 bornes, bah, je pars à 70 bornes parce que je suis là aussi pour me préparer.
Oui,
je suis prêt, je veux continuer.
Il envisage le cyclisme.
Mais vous savez quoi, on fait ce débat parce que avec mon ami Christophe, avec qui on s'adore, on s'engueule en permanence, mais on adore justement débattre de vélo, notamment mon cher Chris. Non mais moi en fait, je vous avoue que je partais un peu de
ce postulat. Ça t'a perturbé un peu.
Non mais en fait, je commence à avoir un sentiment que je n'avais pas trop avant avec Pogacar. Je commence à avoir le sentiment qu'il a envie d'humilier les autres. En fait, qu'il a une envie d'écraser et de tuer dans l'œuf absolument tout. Et là, on parle parce que là, on parle de la première étape du Tour de Suisse. C'est-à-dire que là, tout de suite, il part. Qu'il le fasse sur des monuments, tout ça.
Pourquoi il aurait attendu? Pourquoi lui écrirait le scénario de la course? Il fait sa course.
Il va sur le Tour de Romandie, qui gagne 4 étapes sur 6.
Il est le plus fort.
Mais quelle nécessité de faire ça? Stage en altitude en Sierra Nevada il y a quelques jours, il a croisé les Red Bull Borangsgrohe, il les a croisés dans une ascension, il les a déposés.
Et alors,
il était en haut, ils ont attendu limite en fumant la pipe.
Ils n'ont pas voulu écraser le Racing. C'est un peu le principe du mal dominant ou du champion dominant.
L'Allemagne a mis 7 buts à Curaçao.
Et en l'occurrence, Merckx a fait la même chose en son temps.
Et ça gênait à l'époque. C'est pour ça qu'on appelle cannibale, c'est pas forcément positif.
Il était insulté sur les routes de France. Armstrong, n'en parlons pas. Mais c'est le propre des taulier du peloton et en plus là aucun des grands champions ne s'est affronté avant le début du Tour de France. Donc il y a 15 jours, rappelle-toi, on a fait un podcast. Vingegaard peut-il inquiéter Pogacar vu ce qu'il a fait sur le Giro? Sexas peut-il être le nouveau Pogacar? Tu crois que ça il le prend comment ça le Poggi le Sloven chez lui tranquille? Eh bien dit, vous allez voir les gars, exactement. Vous allez voir le petit Sexas, le petit Vingegaard, je vais les mettre au garde à vous. Je vais vous montrer que je suis le taulier. C'est des messages envoyés. C'est de la guerre psychologique à 15 jours du départ du Tour de France. Sarah, c'est comme ça qu'ils ont toujours
plus
fait. 20, quoi.
Plus 30 hier, ils ne sont pas arrêtés de jouer.
Non, mais évidemment. Mais là, on est sur une demi-finale de top 14.
Oui, pardon,
on n'est pas sur la première étape.
Tadej Pogacar, depuis toujours, d'ailleurs, et qu'on est un spécialiste de cyclisme autour de la table, on dit de ce coureur qu'il aime jouer au vélo. C'est-à-dire que le vélo, pour lui, est un jeu. Donc, ce type qui soit hors norme, qui développe des watts hors norme, j'entends très bien, mais quand il est au départ d'une course, il en gagne plus de 80%. Donc en fait, il sait qu'il va la gagner la course, mais comme c'est un jeu, eh bien lui se fait plaisir par rapport au sport qu'il a envie de faire. Même les autres coureurs, j'entendais Julien Alaphilippe qui disait la même chose. Il aime que le vélo soit
tu veux dire quoi, il ne sait pas courir autrement en fait.
Mais non, mais on a un gros problème de toute façon, Georges a fait ce débat en fonction de sa perception personnelle.
On en parlait hier et effectivement on n'était pas d'accord, mais je lui ai dit, mais genre, si personne n'est d'accord, c'est pas grave, tu vas t'opposer au 4GG. Et il sait le faire, il sait nous manier à 4, t'inquiète. C'est un dompteur de faux.
L'idée aussi, c'est de répondre dans
les grandes gueules du sport le
samedi. Il a raison de répondre dans les grandes gueules du sport à une petite musique qu'on entend aussi dans le public qui a raison et qui voit effectivement
la musique, elle est française. La musique, elle est française.
Française parce qu'on est à 3 semaines du Tour de France.
Non mais Sarah, c'est pas ça.
Parce que sur la Strade Bianche, il est parti aussi tout seul.
Et en Italie, tout à l'heure, Georges parlait de.
Et au championnat d'Europe, il a fait la même chose. Il court comme ça.
Tout à l'heure, Georges, tu parlais.
Le Tour de Suisse, c'était en Italie.
C'est la Suisse italienne, ouais. Alors
que Jérôme a toujours pas dit pourquoi j'avais raison.
Non mais t'as raison sur un point, c'est que c'est la petite musique qui monte en France et notamment. par les détracteurs du cyclisme. Parce que les passionnés de vélo, ils te disent, regarde la start list du Tour de Suisse. Bah, c'est fait, en fait. Il va gagner. Oui. Il va écraser la course. Il va regagner le contre-la-montre aujourd'hui. Je te le dis, il va gagner aujourd'hui encore.
Demain est après de montagne.
Et par contre, en Italie, en Espagne, en Italie notamment, il trouve que le Fuori Classe est de retour. Ah, l'organisateur du Tour de Suisse est ravi de le voir arriver. Et surtout.
T'es pas obligé d'être forcément dans les histoires de dopage et tout ça pour être.
Non, mais la domination. La dernière chose, tu as parlé des Dimers.
On peut être embêté par des dominations.
On a parlé des Dimers. Christophe, tu viens de parler des Dimers. Ouais. Il dominait le cannibale. On a eu la chance d'avoir dans notre vie Bernard Hinault. Quand Bernard Hinault, il gagnait tout, il écrasait tout, ça posait pas de problème en France.
Mais
et si Paul Sexas arrive dans 4 ans, parce que Poggi va peut-être se dire « Allez, c'est bon, j'ai tout gagné, j'arrête. » Si Paul Sexas refait des numéros à la Poggi dans 4 ans, on trouvera ça génial.
Mais non, parce qu'on aurait toujours préféré Poulidor à Routil. Donc, s'il y en a un autre qui gagne et qui termine deuxième
manifeste. Non, que juste les
pour
dire,
pour la popularité de Pogacar. Déjà, qui commence à être critiqué. On est là, il gagne trop, il gagne trop facilement.
Mais ça, c'est très
français. Tu vas voir en France, si c'est que ça arrive à être à concurrencer Pogacar va devenir l'homme le plus mal aimé du pays.
Et
ça risque d'être chaud comme ça avait été avec Merckx dans les années 70, où dans l'ascension du Puy-de-Dôme, il avait pris un coup de poing dans l'estomac par un supporter de Poulidor qui n'était pas content que Merckx gagne tout. Il y a des archives de l'époque. Ah bah Merckx. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, Pogacar, superstar et super dominant, si on a notre petit Français qui prend tôle sur le tour, que ça incite à la haine.
Est-ce que Merckx à sa grande époque était aussi au-dessus que Poggi aujourd'hui?
Oui.
Parce
oui.
que
oui.
Là,
oui.
là, j'entends 10 crans au-dessus, mais est-ce qu'il y avait ce tel
oui.
écart
oui. Oui. aussi mais important? Les 10 crans au-dessus par rapport à des coureurs, Eddy Merckx c'était pas 10 crans au-dessus des Freddy Martens dans les classiques, il n'y avait pas autant de différence. Mais là, en plus de ça, c'est une course World Tour. La première étape qu'il gagne, c'est un petit Liège-Bastogne-Liège, c'est je monte, je descends toute la journée. Il les a épuisés. S'il n'y a pas Paul Sexas à Liège-Bastogne-Liège, c'est fini à 50 bandes de l'arrivée. Mmh. Et là, il a fait la même. C'est l'une des étapes les plus difficiles avant la montagne. Quid de ce qui va se passer en montagne? Il va peut-être gérer. Mmh. Il va peut-être moins en mettre. Mais en tout cas, sur cette première étape-là et sur le Tour de Suisse, il n'y avait pas de concurrence.
Ce qui est dur, c'est que, c'est, à mon avis, ce que tu dis sur l'étape de montagne, c'est en fait, ça va rentrer dans un plan d'entraînement pour le Tour de France.
C'est sa prépa. Il est obligé de faire à son intensité à lui, sinon il ne va pas progresser. Tu sais qu'à la grande époque de Romain Bardet, moi je discutais avec Romain des fois, et je lui dis, mais comment ça se fait que tu ne fais pas ces courses-là? Et un jour il m'avait répondu, j'ai pris un peu pour un prétentieux, finalement, non, il avait raison. Mais tu sais, Jérôme, il y a certaines courses où dans le peloton, je régresse. Ah oui? Parce que son niveau de performance à lui est tel, en fait, d'être dans le peloton, ça. Et dernière chose, Georges, moi si j'avais. Mettons-nous dans la peau. On a tous été sportifs de haut niveau, mais pas les plus grands dominateurs de nos disciplines. Mais rien que le talent et la possession de cette force, tu me la mets à moi.
Je vais te poser une dernière question, Jérôme. Donc tu as été dans le peloton professionnel. Moi, je regarde un peu les déclarations après la victoire de Pogacar l'autre jour sur la première étape. On sent que tout le monde est un peu abasourdi en fait. Hein. Tige Benoît qui dit je n'ai jamais vu rouler Merckx, mais c'est sûrement de ce niveau. On a l'impression qu'on a les bons coureurs, mais derrière on a l'impression qu'il pouvait mettre 3-4 minutes à tout le monde dans un peloton. Un mec qui comme ça te rosse à chaque course, il est impopulaire. Ça le rend impopulaire.
Ça dépend comment il agit ensuite dans le peloton.
Ça dépend de son comportement
dans le peloton. Moi, j'ai couru avec un mec qui était
dans le peloton. On n'a pas ces discussions là, se dire il est obligé de partir à la première étape Tour de Suisse et nous humilier en mode division.
Bah si, moi le lendemain, tu vois, j'allais voir, Poggi attend un peu quand même.
Là, tu vois, on passe pour des cons.
Mais ouais, tu lui dis, mais s'en fout. C'est sur le ton de la rigolade, mais lui, il fait son sport. Lui, il fait ce dont pourquoi il est payé, c'est-à-dire gagner des courses.
Nadal, peu importe la manière. Il est obligé de mettre 1-2-1 à tout le monde au premier tour à Roland Garros.
Bah ouais, pareil, c'est la même chose.
Il va pas aller jusqu'à 4 partout pour faire plaisir.
Mais regarde, c'est arrivé par le passé aussi. Et dans le vélo, les gens qui se font des petits passes droits, bah, c'est souvent aussi très mal perçu parce que tu es tellement dominateur qu'on dit, bah ouais, mais lui, il est tellement dopé qu'il se permet même de laisser la victoire aux autres. Donc, lui, il gagne. Voilà.
Lui, il gagne évidemment. Alors, il n'était pas question de parler de suspicion ni quoi que ce soit. Hein. C'était juste les dominations qui dérangent. Voilà.
Tu vas voir. Non, qui te dérange.
Mais non, mais qui dérange et qui dérange aussi une partie du public qui suit les courses. Vous allez voir, hein, s'il part à la deuxième étape entre Tarragone et Barcelone à 70 km de l'arrivée.
Si aux angles, il a déjà 4 minutes d'avance.
Et Christophe sera le premier à dire, oh, mais il nous ennuie.
C'est fort possible. Mais non, mais il nous ennuie. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est comme ça.
C'est dans deux semaines le Tour de France. On a juste
non, mais il y aura de la concurrence,
une préparation. Allez, j'y crois. Je crois pas dans quelques instants. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport qui poursuivent toujours les débats pendant les coupures. Hein. Vous le savez, il n'y a pas de pause fraîcheur pour nous. On continue de débattre évidemment dans le vestiaire, dans un instant. On va se poser la question, est-ce qu'on arrive à faire abstraction de la vie privée pendant une compétition? Tiens, c'est un sujet un peu sensible, intéressant d'en parler tous ensemble, alors que bah, on sait que par exemple Lionel Messi passe un moment un peu compliqué là avec ses proches. Et Tadej Pogacar, par exemple, a vu sa compagne chuter sur le Tour de Suisse assez violemment. Hein. Et pourtant, là, il a réussi à prendre le départ. Tout de suite, j'y crois pas.
RMC, les grandes gueules du sport. J'y crois pas.
Tiens, je vais commencer par ça, les amis. J'y crois pas. Les sœurs Williams vont performer en double à Wimbledon. Sarah Pitkowski.
Moi, j'y crois.
Oh bah,
ouais, bon. Ouais, ça a l'air, t'as l'air de croire.
Bennett.
Je crois pas.
Ce duo est un de mes duos préférés. Il y a Eric et Ramsey, et Bennett, c'est Sarah. C'est Jérôme.
J'y crois pas non plus.
Christophe, pourquoi t'y crois pas trop, Sarah? Alors je rappelle donc,
j'y crois.
29 ans. Pardon, pourquoi t'y crois? 29 ans après leur toute première sur le circuit professionnel, donc Venus et Serena qui ont 46 et 44 ans, elles vont faire leur apparition donc sur le tournoi Wimbledon puisqu'elles ont obtenu une wild card pour jouer ensemble. Hein. Donc on rappelle qu'elle avait fait son retour au Queens, Serena Williams, mais ça avait été sa collègue avait été forfait pour le deuxième match. Alors pourquoi t'y crois un peu?
J'y crois un peu parce que alors j'ai vu sur certaines vidéos le Serena jouait et j'ai été quand même impressionnée par sa qualité sa qualité de frappe. On est sur du gazon, donc c'est une surface un peu particulière, il ne va pas y avoir beaucoup d'échanges. Elles se connaissent par cœur et le niveau du double féminin, de toute manière, on dit que deux très bonnes joueuses de simple, en tout cas deux très bons joueurs de simple qui s'associent en double, sont toujours a priori plus forts qu'une équipe qui ne fait que du double.
Bah, les deux se connaissent bien quand même, elles en ont fait en plus.
Oui, elles en ont fait. Et donc en fait, je me dis que de les voir en quart ou en demi, ce serait pas invraisemblable. C'est pour ça que je mets pas un nom catégorique.
Bennett a fait l'équivalent de 10 mous pendant que tu parlais pas du tout convaincu.
Me dis pas que t'es pas d'accord avec moi que deux bons joueurs de simple sont meilleurs en double.
Là-dessus, oui, mais déjà, est-ce que Venus Williams, elle est toujours très forte?
Bah, Venus, elle continue à jouer.
De temps en temps.
Mais non, mais elle fait des tours
j'y crois pas. Je dirais même, j'espère pas pour le tennis féminin.
Moi, le double, ça me dérange pas.
Rappelle, 42 et 46, c'est ça?
46 et 44.
Elle a joué à Berlin, là.
Oui, elle est bonne tête.
Elle a joué à Berlin avec une tchèque, Mourova. Elle a perdu contre une équipe spécialiste de double. Et Mourova, une très très bonne joueuse, à la fois de simple et de double. Donc je me dis, ok, c'est du gazon, etc. Mais quand elle joue avec une fille aussi forte, elle n'a pas gagné plus que ça. Venus Williams sera moins forte que les partenaires avec qui elle a joué là ces deux dernières semaines. Donc je ne le vois
c'est
pas.
Les deux, c'est 14 titres du Grand Chelem. Oui,
et si tu joues contre la paire.
C'est 3 médailles olympiques.
Contre la paire Williams demain, si tu joues sur qui? Tu joues plutôt sur Serena ou Venus?
Je pense que Venus est moins bonne. Enfin. Je sais pas. Ouais. Honnêtement, Serena, ok, sa qualité de frappe est bien, mais elle se dépasse pas non plus.
Non, mais t'es sur un demi-terrain. Oui, oui. Enfin, je veux dire, t'es sur un demi-terrain.
Elle a beau avoir perdu du poids, elle a beau truc.
Elle sert encore très bien. Les deux servent encore très bien. Et on est sur du gazon. Tu me parles de terre battue. Je mets un petit doute. Là, c'est parce qu'il y a aussi le fait qu'on est sur, du gazon.
Donc, tu miserais ta maison à la boule sur une victoire dans
le tournoi de Wimbledon. Non, mais je mise ta maison sur rien du tout.
Allez, j'y crois pas, les amis. Et Montpellier, le MHR va marcher sur le Stade Français ce soir sur la deuxième demi-finale. Jérôme?
Ouais, j'y crois.
Christophe?
Non, j'y crois pas.
Bennett?
Bah, en fait, j'ai vu le Racing hier.
Sarah, je sais pas du tout. Je sais pas me prononcer du tout là-dessus.
Je rappelle que Montpellier a terminé deuxième de la phase régulière, donc ils ont pas fait de barrage. Et le Stade Français a concassé La Rochelle 45-5 le week-end dernier. C'est un match avec à gros impact normalement. Hein, Montpellier Stade Français.
Ah ouais, là, ça va être du lourd. C'est du très lourd. Moi, je ne pense pas qu'ils vont leur rentrer dedans parce que bon, effectivement, Montpellier a pu se reposer la semaine dernière alors que le Stade Français a dû disputer un match difficile. Mais enfin, ils l'ont quand même bien géré ce match et à la mi-temps, ils ont pu commencer à faire tourner. Ils ont eu derrière quelques jours de récupération et ce sont deux équipes qui ont un jeu à peu près similaire. Ça va être de l'affrontement sévère, mais je ne pense pas que le MHR va marcher sur le Stade Français comme le Stade Toulousain l'a fait hier soir avec le Racing. Je pense qu'on va avoir droit à un match très serré avec deux belles équipes, mais qui aura pas sûrement pas 50 ou 60 points d'écart.
Vous doutez un peu plus? Pourquoi? Parce que ils ont joué un barrage.
Paris. Parce que déjà Montpellier a fait une très belle saison régulière et que Paris a joué il y a une semaine et que même si c'est un match qu'ils ont remporté haut la main, c'est un sport où on l'a constaté hier, t'as un match de plus que les autres quand les autres puissent se préparer, ça crée de l'écart. Moi je dis pas mais je pense qu'ils peuvent les écraser.
Non mais c'est vrai hein, pour le coup notre auditeur a posé la question tout à l'heure de l'intérêt des barrages aussi et sur l'équité finalement de la compétition.
On a plus le temps de revenir là-dessus mais d'accord.
Le dernier vainqueur du Brennus c'était Castres en 2018 passé par les barrages.
Ok, voilà, mais c'est une photo à l'instant T. L'idée de l'intérêt des phases finales, etc. L'année dernière, l'intérêt était monstrueux et on a eu une finale.
Oui. Mais non, mais là, c'est une photo à l'instant T, mais dans un rugby qui devient de plus en plus physique.
L'intérêt, il est là, mais il faudrait donner un tout petit peu plus de récup aux joueurs qui ont disputé un match. Là, c'était 6 jours d'écart entre le match du Racing et la demi-finale face à Toulouse.
C'est pour donner un avantage. Mais oui, d'accord. Mais
là, c'est plus un avantage, surtout face à Toulouse. C'est plus un avantage. C'est quasiment si tu joues avec deux joueurs en plus, quoi. C'est quasiment ça. Donc, je pense qu'il faudrait voir comment on peut essayer d'aplanir quelque peu cet avantage parce qu'il est trop important.
Tu sais qu'on a beaucoup de messages là-dessus. Hein. C'est Eric qui me dit il faudrait en parler justement peut-être dans la grande gueule du sport sur le fonctionnement du top 14 et de ces barrages qui servent peut-être à rien.
Hein.
Ouais, mais c'est vrai que sur cette séquence phase finale, on l'a beaucoup mise en avant et on l'a peut-être pas forcément toujours critiqué.
Pour le rugby en général, que ce soit la montée de Pro D2, le top 14, les finales, il y a un vrai sujet.
On revient dans un instant, les amis. Tiens, on va ouvrir la porte du vestiaire, on va parler de la vie privée pendant une compétition. Et puis on va se poser la question, tiens, est-ce qu'on peut toucher à Cristiano Ronaldo? Apparemment au Portugal c'est un peu compliqué hein. Jean Neves s'il est un peu risqué, même pas vraiment d'ailleurs, et il a pris la foudre des fanatiques de CR7. Pas du tout même, t'as raison, je suis d'accord avec toi. On en parle dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.